Bonjour.
Bonjour.
Je vous souhaite la bonne année. Ça fait très plaisir de vous voir et content de pouvoir redémarrer cette année ensemble. Et j'aimerais démarrer cet après-midi une nouvelle série dans un livre qui va nous accompagner pendant les deux prochains mois et demi, l'Épître aux Éphésiens. Et donc, ce premier, en fait, de cette série, c'est une introduction à l'Épître aux Éphésiens. J'aimerais prier, et puis on va démarrer ensemble. En fait, on va lire quelques versets quand même avant de sauter dans cette introduction à Éphésiens. Notre Dieu, nous sommes entourés, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de paroles, beaucoup de mots qui sont dits jour après jour, des mots qui nous impactent pour le meilleur et pour le pire. Et nous voulons maintenant faire taire toutes ces paroles pour nous concentrer sur la parole qui a vraiment du sens, celle que nous venons de chanter, celle que nous venons de célébrer, la tienne, Seigneur. Ta parole est la vérité et nous prions que tu nous transformes par elle. Dès maintenant. Amen. On va lire les deux premiers versets d'Éphésiens et puis on va ensuite enchaîner avec les trois derniers versets d'Éphésiens. Donc si vous voulez prendre vos Bibles, c'est à la page 766 dans ces Bibles blanches. Deux versets pour lancer cette série dans Éphésiens, et puis on va lire les trois derniers versets de la fin. Voici comment démarre l'Épître aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, page 766. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on prend juste les derniers versets maintenant pour voir. C'est à chapitre 6 et deux pages après, page 770. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 21. Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais, Tychique, le frère bien-aimé qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous ayez de nos nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Une question pour nous cet après-midi. Et peut-être vous avez déjà réfléchi, peut-être vous avez déjà une réponse pour vous déjà depuis un moment, mais j'avais quand même envie de revisiter cette question, qu'il est important de revisiter de temps en temps. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui est important, vraiment important, dans la vie pour vous? Tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, à savoir, tant de personnes à voir et à connaître, tant de sujets d'études sur lesquels nous pencher, tant d'expériences à vivre. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? Ah, si je vous pose cette question, c'est parce que je croyais que le confinement nous avait assagi, qu'on allait avoir un rythme de vie plus calme, moins stressant, plus dans la proximité. Oui, mais voilà, 2022, on est forcé de constater qu'on est bel et bien reparti sur le même rythme effréné, avec les mêmes ambitions qu'on pensait avoir enterré. Et cette question revient avec plus d'élan. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, pour nous, dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important quand le mot d'ordre des chefs au boulot, c'est « faites plus en moins de temps, mais plus longtemps ». Et puis son corollaire, « vous n'en faites jamais assez ». Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie quand on voit ces mamans qui sont épuisées, charge mentale au taquet, qui naviguent entre une vie professionnelle, une vie familiale déjà bien chargée? Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est surtout important de répondre ici pour nous cet après-midi quand on sait que plusieurs personnes, qu'ils s'appellent coach ou qu'ils s'appellent docteur santé bien-être sur Internet, qui vont nous offrir de la spiritualité pour nous sentir mieux, avec toutes ces réponses et son lot de consommation, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? En fait, cette question, si je vous la pose, en fait, elle dépend d'une autre question, une question cruciale. En fait, la question de l'ambition, la question du sens, du dépassement de soi, dépend d'une question essentielle. Et c'est la question capitale à laquelle nous allons répondre en attaquant 2022 avec cette épître et aux Éphésiens, et même si peut-être après cette introduction, on est déjà quelque peu découragé. Découragé, mais nous allons en retrouver de l'encouragement en répondant à cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important dans l'univers? Eh bien, il faut répondre à la question cruciale. Qu'est-ce que Dieu fait dans l'univers? Répondre à cette question, c'est trouver une boussole dans un monde devenu absurde qui fonce sans savoir réellement où il va. Répondre à cette question, c'est pouvoir dire oui à certaines choses qui sont bonnes et d'autres qui sont aussi plus ou moins bonnes, mais qui n'auront pas un impact qui dure pour nous. Et la lettre aux Éphésiens, en fait, c'est un vibrant plaidoyer dans un monde devenu absurde, je l'ai dit, qui nous présente en fait le projet de Dieu, un projet qui a vraiment du sens dans l'univers. C'est un vibrant appel à l'émerveillement de ce que Dieu fait dans l'univers. Et donc, l'idée avec laquelle j'aimerais qu'on puisse repartir cet après-midi, c'est cette exhortation. Émerveillons-nous du plan de la réconciliation cosmique de Dieu. Émerveillons-nous en contemplant ce plan de réconciliation cosmique de Dieu. Et pour vous émerveiller, pour nous encourager, nous renouveler, Paul, l'auteur de cette lettre aux Éphésiens, d'ailleurs c'est une lettre circulaire, le nom de la ville d'Éphèse est ici entre crochets, il n'apparaît pas dans tous les manuscrits, ce qui nous fait penser qu'en fait cette lettre était pour un certain nombre d'églises en Asie mineure. Cette lettre écrite alors que Paul est en résidence surveillée en 62 après Jésus-Christ à Rome, cette lettre que Paul nous écrit, cette personne si influente au christianisme du 1er siècle, nous invite cet après-midi à visiter deux églises. On va visiter deux églises cet après-midi. Deux églises qui correspondent grosso modo aux deux parties de cette lettre. On va faire une première visite, on va visiter une église céleste, Éphésiens chapitre 1 à 3. Et puis il y a une deuxième visite qu'il faut faire, c'est la visite de l'église terrestre. Deux visites pour constater, observer et s'émerveiller de quoi? De ce que Dieu est en train de faire dans l'univers et ce qui est vraiment important. Et pour nous, c'est l'occasion cet après-midi, si nous avons un peu perdu le sens, d'en retrouver, de retrouver de l'énergie et être encouragé en ce début d'année 2022. L'Église céleste d'abord. Alors pourquoi, j'aimerais peut-être répondre à une question de base, mais pourquoi on effectue ces deux visites? Eh bien, si on effectue ces deux visites, c'est pour observer le plan de Dieu qui est décrit en Éphésiens chapitre 1, les versets 9 à 10 que je vais lire. Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, voilà quelle est la volonté de Dieu, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Vous voyez cette division des deux sphères, une sphère céleste et une sphère terrestre. Dieu a un projet, un plan qui est en train de s'accomplir dans le monde, à savoir d'effectuer une réunion cosmique sous l'autorité du Fils bien-aimé, Jésus-Christ, de tout l'univers. Il y a une sphère céleste et une sphère terrestre. Et dans ces deux sphères se trouve l'Église de Jésus-Christ. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il, c'est-à-dire Dieu, nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En ce moment, vous êtes assis sur vos chaises ici, mais en même temps, vous êtes assis, si vous êtes chrétien, si vous êtes en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes, là-haut dans le monde céleste. Mais en même temps, comme je l'ai dit, chaque église est une manifestation terrestre de cette église céleste. Derrière la réalité terrestre visible de l'église Grenoble-Est se cache une réalité céleste, invisible de l'église. Peut-être vous êtes là cet après-midi, quoi. J'étais déjà perdu dans toutes les dénominations d'église entre les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Et maintenant, il faut que je constate que dans une église, il y a deux autres églises, une église céleste et une église terrestre. Eh bien, en fait, c'est bien simple. Plusieurs Français en font l'expérience depuis plusieurs mois. En fait, plutôt, c'est des Parisiens, pour être honnête, qui ont découvert, après le premier confinement, les joies de l'air bienfaisant de la campagne. Avec l'aide du télétravail, certains ont déménagé dans le Cher-et-Loire ou dans la Creuse, tout en gardant leur pied-à-terre à Paris. Derrière la réalité de leur logement et travail parisien se cache la réalité de leur logement céleste à la campagne. Bouffée d'air garantie. Eh bien, grâce à Éphésiens, Paul nous invite à prendre notre télescope, non pas pour observer Thomas Pesquet dans sa station, mais plus loin encore, pour tourner les yeux vers l'Église céleste qui existe actuellement, pour que nous puissions reprendre des bouffées d'air garanties. Parfois, on est tenté de monter dans les montagnes, parce qu'en fait, on vit à Grenoble ici, pour prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour réfléchir sur nos soucis, nos inquiétudes, sur notre niveau de stress. Eh bien, il est possible cette année de prendre de la hauteur tout en restant dans son salon dès le matin, ou au minimum les dimanches après-midi ici à l'EGE, pour lever les yeux et observer cette église céleste que Jésus-Christ a mis en place dans l'univers. Déjà maintenant, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités là-haut dans les lieux célestes et nous régnons avec Jésus-Christ. Lorsque nous partons dans le sud de la France, parfois nous nous rendons du côté de Sisteron, et c'est ce qui s'est passé pour nos vacances de Noël, où nous sommes partis dans le sud sur l'A51, et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce moment sur cette autoroute, c'est quand nous prenons cet énorme pont qui nous fait aller vers la route, qui parfois on appelle la route Napoléon. Et qu'est-ce qu'on voit quand on quitte cette zone, la zone de Grenoble, en fait, derrière nous, un gros nuage de pollution. D'ailleurs, on se dit comment on fait pour vivre tout le temps, toute cette année, dans ce nuage. Parfois, l'Église, ça ressemble aussi à ça. En fait, on est sur le pont de passage vers, qui part de l'ancienne vie, qui nous amène vers les réalités de la nouvelle création. C'est un moment clé dans cette lettre aux Éphésiens, puisqu'en fait, nous partageons notre existence non pas seulement entre deux sphères, la sphère céleste et la sphère terrestre, mais aussi entre deux airs. L'air du pas encore et l'air du déjà. Attention, on fait tourner les neurones. Déjà, nous goûtons à des bénédictions spirituelles en Jésus-Christ que Dieu nous a accordées. Mais nous n'en savourons pas encore toute la plénitude. On est, si vous voulez, encore dans la salle d'attente sur ce pont de l'A51 en direction du soleil du sud, vers le salut final qui va être révélé dans les derniers jours, quand les temps seraient accomplis. On voit ça au chapitre 1, verset 10. Normalement, vous l'avez au verset 10, quand il dit « pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu ». Donc on goûte déjà à quelque chose en Jésus-Christ, il y a déjà une réalité qui est présente, mais on n'a pas tout à fait accès à sa plénitude entière. Déjà, nous régnons avec Jésus-Christ. On est là-haut dans les lieux célestes, on l'a lu dans le verset 6 du chapitre 2, mais nous ne sommes pas encore pleinement victorieux. À la fois dans les lieux célestes et sur la terre, la lutte fait souvent rage contre les influences du diable, chapitre 2, verset 1, du péché, chapitre 4, verset 17, et l'influence du monde qui ne souhaite pas entrer sous le règne bienveillant de Jésus. Nous expérimentons une lutte. Il y a une tension. Déjà, nous sommes entrés sous le règne de Jésus, mais pas encore totalement dans le règne. Et pour reprendre l'analogie avec notre ami parisien, imaginez qu'il décide de s'installer définitivement, pleinement dans sa maison du Loiret. S'il décide de vendre son logement du 18e arrondissement et de quitter son boulot à Paris pour se rendre définitivement à la campagne, eh bien pendant un temps, il va expérimenter le déjà pas encore. Déjà, il sera installé dans son logement en rase campagne, mais pas encore totalement, du fait qu'il n'a pas totalement déménagé tous ses meubles, qu'il n'a pas définitivement vendu son bien parisien et qu'il n'a pas, bien sûr, célébré son pot de départ de son entreprise. Voilà une des réalités importantes qui est présente dans cette épître aux Éphésiens, une réalité du « déjà, pas encore », qui va nous aider à nous écarter de schémas trop simplistes et réducteurs des évangiles que parfois on a appelé des évangiles de prospérité. Des évangiles de prospérité qui promettent guérison, santé, bien-être et absence de douleur, de souffrance sur cette terre, qui va nous permettre d'être plus lucides par rapport à ce qu'on peut attendre déjà dans la vie chrétienne. Oui, déjà nous pouvons expérimenter des bénédictions savoureuses dont il nous faudra contempler la semaine prochaine. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu est déjà à l'œuvre en nous. Il fait quelque chose. Mais nous ne sommes pas encore totalement entrés en possession de notre salut final. Et la fin de cette lettre aux Éphésiens au chapitre 6 va nous rappeler la réalité que parfois nous ignorons, la réalité d'un combat spirituel pour notre vie ici et maintenant. Voilà pour ce qui est de l'Église céleste et de ses deux sphères et de ses deux airs. Voyons maintenant l'Église terrestre. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin d'intervenir dans le cosmos? C'est parce qu'il y a eu rupture. Dieu veut harmoniser ce qui a été désordonné par le mal. Alors très rapidement, Paul ne cache pas notre besoin de réconciliation. Notre mal-être au travail, nos difficultés dans nos couples, la perte de sens ou les ruptures relationnelles sont en fait révélatrices d'une rupture cosmique entre Dieu et les hommes. On imagine parfois que Dieu est indifférent à nos problèmes, à nos soucis, qu'il est incapable ou impuissant pour nous donner ce dont on a vraiment besoin. De ce dont nous avons besoin, c'est de sa faveur imméritée, d'après Éphésiens, de sa faveur imméritée et de son amitié spirituelle, ce à quoi il s'engage et qu'il démarre grâce à Jésus-Christ et à sa croix. Comment démarre cette lettre aux Éphésiens ? Ben, nous l'avons vu en nous disant que nous avons grâce à Jésus-Christ la grâce et la paix. Oui, Dieu n'est ni indifférent, ni impuissant, même si tu en as l'impression en ce moment. Il intervient en conformité avec son caractère dans l'univers, en entrant lui-même dans l'histoire. Dieu se met en colère contre le péché, contre les ruptures, contre le désordre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne condamne plus celui qui se met sous le bon règne de Jésus-Christ. Dieu déborde de grâce. Dieu déborde d'amour pour celui ou celle qui revient à lui et met sa foi en Jésus-Christ, bien qu'il soit souvent encore lui-même acteur dans cette rupture cosmique. Chapitre 2, verset 3. Nous étions par nature des enfants de colère du fait de nos ruptures avec Dieu. Mais Dieu est riche en miséricorde et il est multimillionnaire en grâce. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, nous qui ne pouvions que faire du mal autour de nous, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Vous voyez, chez les intellectuels français, on parle besoin souvent en ce moment du besoin de réenchanter le monde. C'est le constat en fait que la modernité n'a pas pu accomplir les promesses qu'elle nous faisait. Quelles promesses faisait la modernité ? Le savoir pour tous, le progrès pour tous et un monde plus juste et plus égalitaire. Autrement dit, un monde enfin réconcilié. Et c'est là-dessus que prospèrent les milliardaires comme Elon Musk ou Jeff Bezos. C'est sur ce besoin qu'on a de réenchanter le monde parce que la modernité a fait banqueroute, ces besoins viscérales de renouveau qui réenchantent, qui renourrit l'écologie du XXe siècle, au point parfois de nous faire pencher vers un retour du paganisme, dont de se moquer la modernité dont nous faisions partie il y a 30 ans. Le problème de la modernité, c'est qu'elle n'a pas mesuré l'étendue du problème à résoudre. Demander à un moderne de résoudre les problèmes humains, les problèmes de la société, les problèmes d'écologie, ben en fait, c'est comme demander à un cinquième qui vient juste d'apprendre le théorème de Pythagore de résoudre le théorème de Fermat. Et si vous ne connaissez pas ce théorème, ben sachez que moi non plus. Mais non, le problème de l'homme, c'est un problème spirituel, c'est un problème cosmique qui est bien au-dessus de chacun nous peut faire. Et pour résoudre un problème cosmique, ben, il faut quelqu'un de plus grand que l'univers, et cette personne, c'est Dieu. Si vous regardez ce soir les informations et que vous réalisez que oui, on est au 21e siècle et que notre problème numéro un dans la vie en ce moment est un tout petit virus qu'on ne voit pas, qui ne s'arrête pas aux frontières et qui se répand comme une traînée de poudre, vous allez pouvoir constater que le même mal est à l'intérieur de nous et que seul un Dieu peut arrêter une chose qui nous dépasse. Et on l'a vu, c'est précisément ce qu'il vient faire. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est multimillionnaire en grâce et en miséricorde, Dieu est intervenu en Jésus-Christ, à la fois pour nous réconcilier les uns avec les autres, dans une unité profonde et spirituelle, mais aussi avec lui. Regardez ce qu'il fait, Dieu, pas seulement nous réconcilier, au chapitre 2, versets 8 à 10. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est-à-dire la confiance qu'on met en Jésus, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Contrairement aux modernes, Dieu n'améliore pas l'être humain. Il en recrée un nouveau. Il dit « Nous sommes son nouvel ouvrage, créé nouveau en Jésus-Christ. » Pourquoi ? Afin de faire des œuvres, afin que nous les pratiquions, ou plus littéralement, afin que nous marchions dedans. Alors parfois on utilise ce verset 10 pour justifier n'importe quelle distribution de tracts ou que sais-je, concert d'évangélisation et tout ça dans nos milieux. Mais ce mot marcher en fait, ce n'est pas n'importe quelle activité ponctuelle d'une église. Ce verbe marcher, c'est littéralement changer de style de vie. C'est ce qui unit d'ailleurs la première partie de Éphésiens, les chapitres 1 à 3, à la deuxième partie, chapitre 4, verset 6. Dieu crée des hommes et des femmes nouvelles pour vivre en nouveauté de vie. Des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Éphésiens, chapitre 4, verset 1, regardez la jonction qui reprend exactement ce mot. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Dieu nous appelle à quitter un style de vie pour en prendre un nouveau. Et c'est le verbe « marcher » qui est en fait le fil d'Ariane dans la deuxième partie de cette lettre aux Éphésiens. On le retrouve en verset 16, chapitre 4. « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire, vous ne devez plus marcher comme les non-croyants. » Chapitre 5, verset 2. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, ou vivez dans l'amour. » Etc., etc. Voyez, le verbe « marcher », c'est le verbe clé, en fait, de cette deuxième partie qui caractérise la vie de l'Église terrestre. Et on voit vraiment dans la construction, de la structure de cette épître, que tout ce que Paul nous révèle sur l'Église céleste, en chapitre 1, verset 3, chapitre 1 au chapitre 3, en fait, nourrit. C'est la traction de toute la vie qui est proposée ensuite dans les chapitres 4 à 6, qui va nous montrer qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec Dieu, réconcilié avec lui et avec les uns les autres au niveau individuel, au niveau communautaire, au niveau de la parentalité, au niveau du couple, au niveau du travail. Oui, l'Église terrestre, ce qu'on est appelé à vivre dans les chapitres 4 à 6, c'est bien la manifestation de cette Église céleste qui existe en Jésus-Christ. Et dans cette nouvelle vie, dans cette Église terrestre, en fait, vous et moi, nous sommes censés être les thermostats de la société. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un thermostat ? Cette petite appareil qui nous permet de donner la température dans une pièce, eh bien souvent, au lieu de ça, et Paul en est conscient, en fait on se comporte comme des thermomètres. C'est-à-dire qu'on prend la température ambiante au lieu de donner la température ambiante. Parfois, je prends modèle sur les non-chrétiens, sur des gens qui ne sont pas entrés dans l'Église céleste. Pire, parfois, j'avoue, j'envie un peu leur vie. Ah oui, des fois, ils ont une vie un peu plus simple, sans se préoccuper des choses de Dieu. Eh bien, si c'est ton cas, comme c'est parfois le mien, Éphésiens va nous faire découvrir un style de vie désirable qui va faire envie, qui va nous faire regretter d'avoir osé penser qu'être non-chrétien, c'était plus sympa. Comment arriver à cet état de vivre cet émerveillement que Dieu est en train de mettre en place dans cette réconciliation cosmique, tant ce qui est sur le ciel que ce qui est sur la terre. Eh bien, Chloé et moi, on a décidé cette année de changer en fait notre fonctionnement, d'organiser la maison. Avant, on avait deux agendas séparés, papier, ce qui amenait à des boulettes monumentales. Je rentrais, Chloé était en train de préparer un repas et je lui annonçais que je sortais dans une réunion et que le repas était fait pour accueillir des invités. On avait des doublons, on ressentait souvent de la frustration. Aurélien, parce que c'est souvent à cause de moi, bien sûr. Hein. Aurélien, t'es où? T'es censé chercher les enfants? C'est la maîtresse qui a appelé. Je suis encore en réunion. Et là, on a décidé que ça pouvait plus fonctionner, qu'il fallait qu'on trouve un moyen. Et là, vous vous dites, mais dans quel siècle vivent les langues? Puisque nous avons découvert la beauté de l'agenda numérique synchronisé. Ça y est, nous avançons enfin dans la même direction. Nous avons défini pour notre couple ce qui est vraiment important. Eh bien, c'est pareil avec Dieu cet après-midi. Qu'est-ce qui est vraiment important dans le monde? C'est ce que Dieu fait dans l'univers. C'est cette réconciliation cosmique. Et donc, pour vous, pour moi, cet après-midi, l'enjeu, c'est de synchroniser nos agendas avec celui de Dieu et expérimenter de l'émerveillement. Alors, comment expérimenter cet émerveillement de cette réconciliation qui était improbable entre un Dieu qui était en colère contre nous et qui est venu sur cette terre parce qu'il nous aime pour nous réconcilier avec lui et les uns avec les autres? Eh bien, trois choses. Comment s'émerveiller en réalisant ce que Dieu a fait pour nous? En réalisant à nouveau, même si vous le savez, même si vous l'entendez depuis des années et des années, il faut qu'on revienne à la base, au basique, et qu'on puisse expérimenter et voir la preuve indubitable que Dieu, il est multimillionnaire en amour et en grâce, que nous soyons les preuves vivantes que Dieu est intervenu pour nous en Jésus-Christ dans le cosmos. Avons-nous pris conscience du privilège qui est le nôtre? Eh bien, grâce à Éphésiens, on peut mettre un terme à des désirs de fuite, que ce soit à la montagne ou à la campagne, ou dans le métaverse, sur Facebook, ou sur d'autres choses que l'on fait pour fuir la vie ordinaire. On n'a plus besoin d'inventer notre plus belle vie ici, parce que nous sommes réellement en train de la vivre, la plus belle vie à vivre sur cette terre. C'est celle-là, c'est celle dont Éphésiens nous décrit. Est-ce qu'on en a conscience? Même si elle est très ordinaire, même si demain il faudra quand même sortir les poubelles, même si changer ce bébé, ça pue. Ça, c'est la vie instagrammable, par excellence. Parce qu'on est la preuve vivante que Dieu, il est intervenu pour nous et que ça change tout quand il crée les hommes et les femmes nouveaux que nous sommes. Comment s'émerveiller en réalisant ce que Dieu a fait pour nous et en réalisant ce que Dieu fait en nous? Notre vie est relativement ordinaire. Demain, on va retourner au travail. Demain, il va falloir reprendre nos activités routinières. À l'extérieur, on fait tout pareil. Mais à l'intérieur, rien n'est pareil. Du fait de notre appartenance à cette église céleste, il y a quelque chose dans notre existence qui est fondamentalement différent. Et si nous saisissons toujours plus ce que Dieu a fait pour nous, alors nous aurons aussi renouvelé dans notre appréciation de ce que Dieu fait en nous. Il est en train de nous changer. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais il y a des gens ici, je vous connais depuis plusieurs années. Et je me rappelle de vous il y a quelques années. Et je le vois maintenant. Je vois ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous êtes littéralement transformé. Vous n'êtes plus la même personne. C'est parce que Dieu est à l'œuvre en nous, créant un homme nouveau, une femme nouvelle qui veut vivre cette réconciliation cosmique. Et c'est ce que Dieu va faire aussi en nous quand nous allons nous mettre à l'écoute de Éphésiens. On va vivre et connaître encore plus davantage cette vie de transformation. On va être renouvelé dans notre célibat, dans notre mariage, dans notre rôle de nos parents, dans notre rôle au travail. Notre sagesse va augmenter. On va être moins naïf dans la vie. On va prendre en compte notamment cette nouvelle réalité du déjà pas encore. Oui, on est déjà béni en Jésus-Christ, mais il y a encore un combat spirituel et on doit s'engager pleinement dedans. Voilà, réaliser ce que Dieu fait pour nous, réaliser ce que Dieu fait en nous et comment s'émerveiller en réalisant ce que Dieu fait au milieu de nous. Ma prière, c'est que nous soyons encouragés en ce début d'année, renouvelés dans notre vision de qu'est-ce que Dieu est en train de faire sur Terre, ici à Grenoble, et notre renouvelé dans cette vision que nous, ici, nous pouvons être le miroir de cette Église céleste, d'avoir les forces pour se mettre au service du projet de Dieu et de participer en apprenant à dire l'Évangile, notamment, à nous dire l'Évangile les uns aux autres pour nous challenger, pour nous nourrir, pour nous encourager les uns les autres. Enfin, ma prière, c'est que nous soyons encouragés de ce que Dieu fait au milieu de nous, d'être électrisés par cette réalité spirituelle du corps nouveau, de la réalité que nous avons des belles choses à vivre ensemble encore en Église en 2022. Émerveillons-nous du plan de Dieu qui est de réconcilier toutes choses, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en Jésus-Christ. Je vous invite à prier pour finir. Oui, Père, merci pour la lettre aux Éphésiens. C'est royal, Seigneur. C'est juste royal de pouvoir démarrer cette année en revoyant que c'est toi qui es au cœur de l'univers, que Jésus est bien assis sur son trône, que nous sommes assis en lui, déjà nous régnons, et que notre Saint-Esprit est dans nos cœurs pour nous faire marcher d'une manière digne de l'appel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Je prie pour ceux et celles qui ne sont pas encore convaincus de ces réalités, que tu puisses les convaincre, que tu puisses nous aider à prendre notre télescope et regarder à cette réalité céleste et que ça impacte la vie ordinaire terrestre, mais tellement belle, tellement désirable. Je prie que chacun, chacune puisse repartir dès demain dans la vie où on a l'impression que tout est pareil, avec ceux et celles qui ne te connaissent pas, mais à l'intérieur, rien n'est pareil, parce que nous avons une réconciliation incroyable qui a été effectuée par toi, qui a pris l'initiative de déverser ta grâce, ta faveur imméritée, et de renouer avec nous pour une paix, pour une amitié spirituelle qui sera jusque dans l'éternité. Amen.